sur France Inter.
Bonjour à tous, bienvenue à l'école des fans de Philippe Collin. Philippe, approche-toi, monte sur le petit tabouret. Attends, je te règle le micro. Bonjour Philippe.
Salut vieux.
Les enfants sont formidables.
Tu sens de la bouche.
Les enfants sont formidables. Philippe,
non.
Dis-nous, qui sera ce soir chez François Bunel?
Eh bien ce soir, François Bunel à 17h reçoit le chanteur Jacques Higelin.
Oh, tu vas nous chanter une chanson de Jacques Higelin.
Oui, enfin, tomber du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un oublier du ciel.
Bravo, bravo, on applaudit Philippe. Levez vos petits panneaux, notez Philippe.
Et pourquoi il vote 3, le petit teigneux, là?
Nicolas, il vote 3. Il m'a déjà piqué ma femme. Alors, Philippe, dis-nous plutôt, que font tes parents?
Ils sont morts. Non, je déconne.
Les enfants sont cruels. Mais dis-nous, Philippe, que fera-t-on ce soir à 18h?
Eh bien, à 18h15, nous allons parler de la famille, justement, avec le psychanalyste Patrick De Clercq.
Quel sujet formidable!
Ouais, enfin, la famille, c'est pour Noël, hein. Nouvel an, c'est avec les amis. Alors, la famille...
Oh, les enfants sont cruels!
Bon, je veux des cadeaux, maintenant. J'ai le droit à des cadeaux. À la fin, il y avait des cadeaux.
Non,
si, ah, si, ils avaient le droit à des bicrosses, des chaînes.
Non, mon petit Philippe,
je veux des cadeaux.
On n'a pas...
Aïe! Je veux un cadeau, donne-moi des cadeaux. Je
non,
veux un cadeau.
Si. Pas de cadeau.
Teigne, voilà.
5-7 Boulevard, Philippe Collin.
Si vous voulez que Mauduit imite Patrick Sabatier demain, tapez 1.
À retrouver tous les jours.
Si vous voulez qu'il imite Patrick Sébastien, tapez 2.
Du lundi au vendredi à partir de 17h. France Inter. La différence.
15h05 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Quel est le comble de l'identité nationale? C'est de se regarder dans une glace, de trouver qu'on ressemble à Sarkozy. Bonne année!
Salut, nous sommes mercredi. Daniel Mermet vient à peine de commencer son émission, puisque opportunément il rappelle cet accrochage entre Pujadas et un syndicaliste, que Daniel nous fasse de bonheur de rappeler que la fameuse lutte des classes n'est pas celle des prolétaires contre les capitalistes, mais que dans l'idée de Marx, c'était la lutte de la classe capitaliste contre le salariat ouvrier et contre les prolétaires. On renverse tout. La lutte des classes, c'est le patronat qui la déclare aux exploités. Voilà, merci, salut et bon succès.
Je rebondis là, Daniel, par rapport à ce que tu demandais, là, d'où vient l'individualisme. Et à mon avis, ça vient de... Enfin, du moins, il y a une caution intellectuelle donnée par un gars qui s'appelle Lipovetsky, qui est un sociologue, et qui avait fait, il me semble, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, un bouquin qui s'appelait, je crois bien, L'ère du vide. Et bon, c'est un gars donc qui théorisait l'individualisme contemporain, lui cherchait des racines et tout ça, et disait que quelque part, c'était pas plus mal, quoi. C'était comme une sorte de liberté au-dessus du vide. Des considérations, tu vois, entre analyse sociale et concept philosophique, un peu hasardeux, un peu, tu vois, un peu à la Henri Lévy, quoi. Sans qu'il y ait vraiment d'architecture sociologique derrière pour le tenir, comme peuvent en faire des sociologues purs et durs, quoi, comme, je sais pas moi, Cardo, Bourdieu et autres sur l'école, etc., quoi. Donc, voilà, c'était sociologue un peu style Maffezoli, quoi. Ce genre de sociologue qui te fait penser que, d'un coup, la sociologie française a basculé à droite. C'est peut-être le cas à Sciences Po, mais je pense pas que ce soit le cas à l'université. Bravo pour l'émission, bah, évidemment, ouais. Allez, salut, c'était Alain Desvreux qui vous souhaitait des bonnes fêtes et une année 2011 pas trop pourrie, on va dire, pour être prudent.
SOS de la ceinture du Chili, à Caimanes, un groupe de militants de Pau, écœuré par les dégâts d'une multinationale, la MLP, qui a installé en pleine cordillère des Andes une poubelle chimique, la plus grande d'Amérique latine. La multinationale prive d'eau une communauté de 1600 personnes, Los Caimanes, et empoisonne air, eau, nappe phréatique. Les arbres fruitiers meurent. 11 membres de cette communauté, dont 3 femmes, dans un silence médiatique total, national et international, ont fait une grève de 81 jours, je dis bien 81 jours, sans appui politique. 3 d'entre eux ont de graves atteintes oculaires. L'un d'entre eux pourrait bénéficier de l'opération Milagros à Cuba ou au Venezuela. Le régime chilien l'empêche de quitter le pays. Nous filmons un témoignage que nous diffuserons à notre retour.
Merde, v'là l'hiver et ses duretés. Merde, v'là l'hiver, c'est pas le moment de se dépoiler. Y'a que ceux qui tiennent la queue de la poêle qui, au Maroc, vont se carapater. Allez, un petit plagiat d'un poème de Jehan Rictus pour vous souhaiter à tous meilleurs voeux. Et puis n'oubliez pas, faites des trous supplémentaires à votre ceinture, parce que là, il va falloir en 2011 continuer à se la serrer. Hein. Allez, meilleurs voeux, bye bye.
Merci pour ce message, cher auditeur, qui rappelle Jehan Rictus. Le très oublié Jehan Rictus, je me souviens du livre de Jehan Rictus avec les merveilleux dessins de Steinlein. Steinlein, ouais, un grand, grand, grand du dessin de cette époque-là, des dessins noirs et blancs, très contrastés, un peu charbonneux, absolument magnifique. Je vous parle depuis Bruxelles. Qu'est-ce que je fais à Bruxelles? Eh bien, à Bruxelles, on se prépare à commémorer l'assassinat de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, et ça va donner lieu à un certain nombre de manifestations ici, parce que depuis pas mal d'années, toute une série de chercheurs, d'historiens, de journalistes, de juristes travaillent pour faire la lumière sur ce qui fut un crime d'État, un crime de l'État belge, avec le concours des États-Unis à travers la CIA. C'est un long et lent travail. Et il y a quelque temps, l'un des militaires qui a participé à l'exécution au Katanga s'est vanté d'avoir gardé des dents de Lumumba. Il les a exhibées comme un trophée devant des caméras de télévision. Ça a été une immense émotion, une immense indignation. Et par la suite, il s'est rétracté et il a affirmé qu'il les avait jetés dans la mer du Nord, qu'il avait jeté les dents de Lumumba dans la mer du Nord. Et l'an passé, ça donnait lieu à une manifestation à l'endroit supposé où les dents avaient été jetées, devant la mer du Nord, avec une fanfare kimbanguiste, c'est-à-dire de ce mouvement religieux congolais qui était là. Or, depuis, ce militaire est mort, les recherches ont montré qu'il n'avait pas jeté ses dents dans la mer du Nord, mais qu'il les avait enterrées quelque part dans le jardin ou quelque part dans sa maison. Or, cette maison, après sa mort, a été vendue à qui donc ? À un dentiste. Donc, il existe une maison habitée par un dentiste et quelque part dans la maison, dans le jardin de la maison, se trouveraient les dents de Lumumba. C'est un surréalisme aussi morbide que macabre, mais ça mobilise l'opinion et il en sera question à nouveau lors de la commémoration de l'assassinat de Lumumba. Il ne sera pas question que de ça, bien évidemment. On trouvera là, dans la plainte qui va être déposée contre les auteurs de ce crime, l'une des clés de l'histoire du Congo depuis 50 ans. Ce sous-développement terrible du Congo a pour origine, pour beaucoup, ce crime contre Patrice Lumumba. Aujourd'hui, nous, on va revenir au Japon. On va revenir au Japon pour une chose extrêmement importante qui hante nos vies à tous. Et puis, tout aussi, il faut bien le dire, c'est le phallus. Ah, le phallus, oui, le phallus. On va au temple du phallus, quelque part au Japon, dans le cadre des rétrospectives de la Pacifique, pour cette fin d'année. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Pacifique, au 01 56 40 37 37. Et n'oubliez pas, sur la-bas.org, les vœux du président.
Bonjour Daniel, j'écoute en ce moment l'émission qui se passe donc à PSA en soutien à Ahmed. Et cette solidarité de tous les camarades sur un camarade qui est harcelé et menacé de licenciement me fait penser aussi à l'émission d'hier avec Franck Lepage autour d'éducation populaire, car figure-toi que je suis salarié dans la Nièvre d'une fédération d'éducation populaire pour moi ça se passe bien, mais j'ai des collègues qui sont salariés de d'autres associations et qui sont isolés et qui peuvent bénéficier de cette solidarité en interne. Et c'est parfois difficile aussi de lutter face à des gens qui jouent sur l'affectif, qui ne pensent qu'à mettre des pressions ou du chantage au financement sur leur poste. Voilà, c'était un petit billet d'humeur. Salut.
Bonjour. En fait, j'ai vu que vous avez fait une émission sur l'éducation populaire avec Franck Lepage, et je me disais juste que c'était dommage qu'il n'y ait pas d'émission sur le Théâtre Forum, le théâtre de l'opprimé qui a été fondé par Augusto Boal. Il y a une compagnie à Paris qui s'appelle Nage, Nous n'abandonnerons jamais l'espoir. À Strasbourg, c'est le théâtre du Potimarron. Enfin voilà, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Bonne fête à vous. Au revoir.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Marina. Bonjour. Salut Daniel. Des flocons de glace se déversent sur nos têtes. Des icebergs encombrent nos chemins. On a vu un ours blanc sur la banquise d'une banque. Une enfant à genoux dans la neige mendiait ce matin sur le trottoir de la ville des grands hommes. L'hiver n'y est pour rien, c'est dans nos cœurs qu'il gèle. Trop souvent, trop souvent, trop souvent.
Bonjour, c'est Michel de Bretagne. Oui, je suis très étonnée de l'absence de réaction et je me demande si je suis la seule à avoir été choquée d'entendre Alain Juppé à propos de la Côte d'Ivoire l'autre jour dire qu'il conseillait aux Français qui étaient restés là-bas de rentrer en métropole. À mon avis, enfin le mot métropole en fait s'emploie par opposition aux colonies, quoi, aux territoires appartenant à la France. Donc pour moi c'est le signe quand même flagrant que Alain Juppé au fond de lui considère la Côte d'Ivoire comme non pas comme un État indépendant mais comme une possession française. Mais ce qui m'a surtout étonnée, c'est l'absence de réaction générale à ce terme employé par Alain Juppé. Alors, je me demande si j'ai rêvé ou quoi. Salut à tous.
Mesdames et Messieurs, écoutez-vous.
C'est là-bas si j'y suis, au Japon, sous un coin du kimono. Et là, aujourd'hui...
Alors là...
Ouh, un lavoir.
C'est magnifique, c'est un lavoir avec à gauche et à droite deux splendides dragons. Très, très agressif et très hérissé de partout, la gueule ouverte.
Il y en a un qui fait fontaine.
C'est de l'eau de source, en général, pour se purifier, avant de rentrer dans le sanctuaire. Donc on prend un des petits baquets.
Une cuillère en bois.
Une petite louche en bouleau et en bambou.
Une fois, alors évidemment, on prend l'eau pure et... L'eau sale, on la verse à l'extérieur. On ne se lave pas les mains à l'intérieur. On verse une fois comme ça sur la main gauche. Maintenant que cette main est propre.
La main gauche.
Voilà. On change.
Et après, je prends la petite louche en bois dans ma main gauche. Je verse l'eau sur ma main droite. Et voilà.
Non, pas tout à fait. Ensuite, la bouche.
Ah!
On peut boire, souvent c'est de l'eau de source. Et pour terminer, quand même, comme tu as touché au début le manche avec ta main sale, tu verses le reste de l'eau qui est comme ça, juste là, et symboliquement.
Tu purifies le manche de la louche avec laquelle tu t'es purifié.
Et tu reposes.
Et tu reposes. Magnifique. Petite cérémonie de purification. Et au-dessus, il y a du...
C'est des nœuds porte-bonheur, c'est ça?
C'est du papier de riz découpé qui effectivement porte-bonheur.
Qui doit chasser les démons, très probablement. Mais nous entrons quand même. Car nous sommes les démons.
Ça, c'est le Japon. Hein. Ça, c'est le vrai Japon. Ça, c'est les images qu'on voit quand on dit le mot Japon. Et aujourd'hui, on va se balader dans ce Japon-là, celui des jardins extraordinaires, des maisons de thé et des gravures d'Hiroshige. Ce voyage m'a permis de faire quelque chose. C'est d'entendre prononcer ce nom d'Hiroshige, ce dessinateur fabuleux. J'ai un livre que j'avais acheté très très gamin et j'ai jamais entendu le nom de ce dessinateur. J'ai toujours dit Hiroshige. Je croyais qu'il s'appelait Hiroshige. Et j'ai eu plusieurs bouquins de lui, mais jamais j'avais entendu ce nom. Et j'ai appris qu'on disait Hiroshige. On a vu à Tokyo une magnifique exposition de cet immense artiste du 19e siècle. Eh bien, c'est un peu dans ce Japon-là qu'on va aujourd'hui. Hiroshige était d'ailleurs pas si japonais que ça. Ces gravures, les 100 vues de Edo, l'ancien nom de Tokyo, sont très incisives sur les moments de la vie, les échanges, les duretés éventuellement de l'existence. Là, c'est dans un endroit étonnant où nous allons. C'est Tagata Jinja, c'est un temple Shinto où chaque année on promène en procession d'énormes phallus en bois. Un énorme phallus en bois. Bien sûr, ça attire beaucoup de monde. Et ceux qui viennent là, les pèlerins, j'hésitais entre pèlerins et touristes, et bien c'est un peu les deux, hésitent entre le goguenard et le sacré. Le sacré devient goguenard et le goguenard devient sacré parce que ces phallus sont des symboles de fertilité. On en trouve un peu partout dans le monde. C'est assez étonnant d'ailleurs de les voir ici au Japon, alors qu'on a vu ça jadis chez les Romains, Priape. On a vu ça chez les Grecs. Très souvent, ces phallus étaient promenés dans la Grèce ancienne. Ça s'appelait des phallofories. Et on a vu ça également en Thaïlande, par exemple, en Inde, au Bengale, et puis aussi en Amérique latine. Donc, représentation du phallus comme symbole de la fertilité, de la fécondité. À travers le monde, on trouve beaucoup plus, c'est ainsi, de représentation du phallus que du sexe féminin. Beaucoup plus de linga que de yoni représentés à travers le monde. Beaucoup plus de Shiva que de Shakti représentés. C'est ainsi, et c'était ainsi dans notre Gaule, et la Gaule ancienne, on avait aussi des représentations phalliques, et on est allé jusqu'à dire que les menhirs n'étaient rien d'autre que des phallus érigés. C'est dire si nous, forts de ce tour d'horizon culturel, universel, et de toujours et à jamais, nous entrons rassérénés dans ce temple Shinto de Tagata Jinja.
Skip 渡り鳥
toutes les amulettes que l'on trouve dans chaque temple. D'ailleurs, il y en a, voilà, en forme de l'objet qui nous intéresse. Puisqu'ici, on célèbre la fertilité.
Magnifique, regarde ça, tu vois. Je lis cette petite boîte. Et dedans, si j'ouvre la petite boîte, qu'est-ce que je trouve? Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Ouh, enveloppé dans du papier. Mais ça doit être un petit phallus.
Avec une prière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un papier qu'on voit un peu en transparence et il y a une prière du temple.
La prière du phallus.
C'est un grelot en forme.
Ah, c'est joli. Que vous entendez là? C'est un phallus, vous pouvez vous accrocher ça autour du cou.
Un gland grelot.
Un gland grelot.
Là, on voit
ce qui se passe régulièrement. Je suppose chaque année, la grande fête du phallus qu'on transporte dans la foule, comme ça, un énorme phallus en bois, porté à dos d'homme, et qu'on transporte, qui navigue au-dessus de la foule, comme ça. Et ça, j'ai vu ça au Rossio, au pèlerinage du Rossio, dans le sud de l'Espagne, sauf que c'est pas un gros phallus comme ça, c'est la Vierge des Rossio qu'on transporte comme ça.
C'est une procession, et la petite reproduction miniaturisée du temple, enfin du sanctuaire plutôt.
Transpercée de part en part par un énorme phallus en bois.
Les touristes chinoises ont l'air de trouver ça très drôle.
Voilà, on hésite entre la rigolade et la dévotion. La dévotion parce que dans beaucoup de régions du monde, en Thaïlande par exemple, eh bien, on distribue aux enfants de ces phallus en forme d'amulettes et qui contribuent à chasser les mauvais esprits. On les met autour du cou des enfants ou à la ceinture des petits-enfants ou au cou d'un bébé, comme ça, et hop, les mauvais esprits, oula, arrivent et c'est dit, ouh, je peux pas, et contournent l'enfant. Et de la même façon, sur les maisons, quelques phallus bien disposés à l'entrée de votre maison et les mauvais esprits n'insistent pas. Ils contournent la maison, ils n'insistent pas. Voilà, et c'est une vieille histoire. Vous voyez la représentation masculine du sexe masculin, on trace un cercle et en oblique, on dessine une sorte de flèche, vous voyez ? Eh bien, le cercle, c'est le bouclier de Mercure et la flèche, c'est son sabre. Et on retrouve un peu cette idée du cercle et du sabre dans cette représentation du phallus dans ce temple. Comment tout ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des communications de ces cultures entre elles ou bien est-ce qu'elles ont surgi spontanément sans interférence? Ça, c'est les grands, grands mystères de notre histoire. Mais on est quand même, on est encore en 2010, on est au Japon, un pays réputé moderne, avec cette idée de ce qu'est, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais enfin on veut dire moderne, qui s'oppose à ses croyances et ses représentations et ses cultes, et qui remonte à la culture ancienne, à la culture au sens d'agriculture, au sens de, quand on parle de fertilité, on parle du riz essentiellement dans ces régions. Eh bien, au Japon, tout ça cohabite et donne raison à ceux qui disent le Japon, c'est être moderne sans être occidental.
Et des petits arbres, de l'ombre, des bâtiments en bois, mais alors là, les gâteaux ganas. On a le droit de rentrer à l'intérieur.
On va enlever les chaussures là. Oh, on les fait. Voilà l'animal.
Ce phallus est celui que nous avons construit cette année et que nous avons offert en offrande au phallus principal que nous vénérons ici.
Il est extraordinaire, c'est une masse de bois, c'est un tronc d'arbre absolument superbe. Je ne sais pas quel bois c'est, mais c'est un
cyprès japonais.
Un cyprès japonais, j'ai jamais vu un bois pareil, un bois très clair, et c'est un phallus. C'est un phallus, c'est la tête d'un phallus en fait, c'est la partie phallus, c'est pas la partie des bourses, ni comme on dit chez nous, des couilles, c'est le sexe lui-même, avec des magnifiques plis, et puis, ah alors là, et puis la fente, ah, il n'y a pas la fente là, il y a le frein.
Juste une précision, c'est un sanctuaire portatif.
Il est dans un reposoir, il entre, il sort du reposoir, et c'est ce reposoir qui est porté à dos d'homme pendant la procession. Alors vous nous précisez bien, cher moine, qu'il s'agit d'une procession, il ne faut pas faire de confusion, de la fertilité. Et vous nous expliquez qu'il y a 2000 ans, quand votre culture est rentrée dans la culture du riz, évidemment que c'était la culture du riz qui assurait la continuation de la vie. Hein. C'est ça qui assurait la continuation de la vie. Donc, pour honorer et pour supplier, pour prier le ciel de favoriser la culture du riz, c'est-à-dire par la pluie et le soleil, on a eu cette métaphore du phallus.
Oui, c'est ça. C'est ça.
C'est effectivement tout à fait ça. Cette symbolisation du phallus masculin, donc du sexe masculin, nous l'appelons Owasegata ici.
Ogina kuki no katachi.
Ce qui veut dire la forme qui a un gros tronc.
Alors là, il faut bien comprendre qu'on est dans un temple, hein, on est dans un lieu. Là, il y a des petites chaises pour les fidèles qui viennent prier. Il y a cet énorme phallus, le phallus de l'année taillé en cyprès, qui a été promené lors de la dernière festivité. Mais là, j'en vois un énorme noir qui est sur le côté. Celui-là, c'est quoi ?
Achira wa, iwairu Takata Jinja no Sukesha ga.
C'est un autre phallus que nos fidèles ont aussi fabriqué, mais avec un arbre différent. Un bois qui est très 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 dur. Si notre sanctuaire un jour venait à brûler, tout brûlerait, mais certainement pas cet arbre.
Oui, on appelle ça du bois de fer.
Sauce.
Voilà, là on va vers l'autel, on va vers cet énorme phallus de bois noir qui est dressé, qui n'est pas dressé, qui est incliné sur une sorte de berceau avec des coussins.
Koko sawatte itadaku to iwairu katai ki desu node 2000 nen mae o fureru koto ga dekiru to.
Et si on touche ici, on met la main sur le centre donc du pénis ici, c'est comme si vous touchiez le monde d'il y a 2000 ans, puisque l'arbre a 2000 ans, le cœur a 2000 ans. Touchez, je vous.
Oh là, en effet, regarde, c'est comme du fer, regarde, ça sonne comme du métal. Hein.
C'est vraiment le noyau de l'arbre.
Ouais. Alors, ici, vous faites un culte. En quoi ça consiste ?
Takata Jinja wa, iwairu Aichi-ken, Komaki-shi, Takata-chon ni jinja shite imashite.
Tout d'abord, donc, notre sanctuaire est dans le département de l'Aichi, dans la ville de Komaki, et il s'appelle le sanctuaire Takata.
Ima kara yaku 2000 nen gurai mae, kono chiyo no
l'origine de ce sanctuaire remonte à il y a à peu près 2000 ans. Il a été établi par la population locale pour encourager la bonne récolte et la fertilité.
Fertilité humaine aussi, des familles, des enfants.
Keshite kono dansei no shimboru dake o mite shimau to iwairu otoko no kamisama da toka iwaru seksu no kamisama to mirareru keikou ga arimasu kedo.
C'est vrai qu'en voyant l'objet, on aurait plutôt tendance à penser qu'on vénère un homme ou le sexe d'un homme ou les rapports, mais nous ne vénérons pas cela, nous vénérons pour avoir toujours du riz en abondance. Fertilité de la terre et fertilité des hommes étaient très liées puisque une bonne récolte permettait aussi de bien s'alimenter et donc de pouvoir agrandir sa famille.
Et pourquoi il y a un micro en dessous ? Il y a un micro qui est branché sous le phallus, ce géant.
Oui, le géant.
C'est juste quand je fais la prière ici, le son est pris par ce micro et les fidèles qui sont assis derrière peuvent entendre ma voix. Actuellement, de nos jours, bien sûr, des femmes viennent ici pour la fertilité, aussi enceintes, pour avoir un bon accouchement. Ensuite, une fois que l'enfant est né, pour qu'il se porte bien, nous prions aussi, bien sûr, pour ça.
C'est peut-être ce qu'est en train de faire cette femme-là qui vient d'arriver et qui a jeté une poignée de pièces dans le tronc et puis après qui a claqué des mains deux fois et qui maintenant a les mains jointes, les yeux clos et qui est en train de prier.
Oui, oui, je pense que c'est effectivement pour cela qu'elle prie.
Est-ce qu'il y a des chants pour ce culte ?
Il y a des rites particuliers propres à ce sanctuaire. Par exemple, les personnes viennent donc mettre leurs mains, c'est-à-dire viennent caresser le phallus géant pour que les vœux soient réalisés. Avant que vous arriviez, j'étais en train de balayer un petit peu le sanctuaire, donc je ne suis vraiment pas en tenue pour pouvoir faire... Il me faut toute ma tenue.
Avec la coiffe.
Avec coiffe, et pour pouvoir faire une prière, mais je peux vous la faire avec vraiment grand plaisir.
Avant de chanter, il faut faire une offrande, et il faut surtout donner le sens à cette prière. Alors, il y a un petit formulaire imprimé, bien comme il faut, au caractère japonais, qui nous dit...
Voulez-vous choisir de faire une prière plutôt pour avoir donc des enfants, c'est-à-dire le trésor des enfants, c'est anzin, donc une grossesse et un accouchement heureux, pour faire une belle rencontre, retirer les mauvaises choses pour ne pas avoir d'accident en déplacement, pour la sécurité dans la maison et pour le commerce, pour que les commerces se portent bien. Que choisissez-vous ?
Moi, je veux être protégé des mauvais esprits.
Il faut mettre les noms.
Les noms, c'est fait. Je reviens, je vais me changer. Attendez.
Merci beaucoup, monsieur Awata, du sanctuaire de Tagata. Oui, on entend ses chaussures qui s'éloignent, ses sandales.
Alors là, on est avec notre ami le moine qui a changé d'accoutrement. Et là, c'est absolument magnifique. Il a une sorte de grande toge rouge incarnat avec des ornements dorés et un chapeau pointu noir. Et on va pouvoir maintenant aller dans le temple où notre ami va se livrer au culte nécessaire pour que les mauvais esprits nous désertent.
Il aimerait qu'on lui mette l'adresse en... Ah, Flansu, pas dit Flansu, c'est d'ailleurs...
Radio Flansu, pas dit Flansu.
Radio Flansu, pas dit Flansu.
C'est-à-dire qu'on a donné notre vœu maintenant, notre bon, à monsieur Awaka.
C'est bien ce qu'on fait, parce que tu vois, comment on a eu l'idée de se domicilier 116 avenue du président Kennedy, 75 06 Paris, et qu'on a demandé faire une prière pour écarter les mauvais esprits. Ça veut donc dire que désormais, les mauvais esprits n'atteindront plus la maison de la radio. La maison de la radio sera préservée des mauvais esprits.
Désenvoûtée,
voilà. Et c'était vraiment nécessaire. Voilà, alors on est...
Putain, je vais sursauter, là, j'ai pas vu le... Sur le tambour, il l'a posé. Il s'incline devant nous. Il pousse la petite barrière. Et il se met face à l'autel. Il s'incline devant l'autel. Il enlève ses sandales et monte les trois petites marches. Un petit pas, il s'approche de l'autel où se trouve donc le gigantesque phallus en bois. Il s'incline à nouveau. Il s'agenouille. Je m'approche de lui pour la prière. Faut que j'enlève mes chaussures aussi, et puis je vais faire des petits pas discrètement pendant qu'il est complètement allongé maintenant. Il a à sa main le papier avec nos noms et l'adresse de la maison de la radio et le feu.
つくしの姫かの立ち花のほどの淡き荒に溝に払えたまいし時になりませる払えどの狼たち。 もろもろの我が事を積み汚れあらむおば払えたまえ清めたまえと申すことを聞こしめせと。 かしこみもまおす。
Je vais donc vous purifier.
Il agite une espèce de plumeau en papier découpé au-dessus de nos têtes. Voilà, on est purifié.
France Radio Itonamu Melme Daniel Anctail Give Lefebvre Sanae Yasokabi waredomo kyo no ikui no tarui ni kashikomi mo maosu.
Voilà, on a tapé deux fois dans les mains. La prière est finie, on prend un petit grelot avec plein de petites clochettes.
Baissez vos têtes.
On nous donne une branche, c'est comme du laurier un peu, en plastique simplement.
Oui. Et offrez s'il vous plaît cette branche en mettant la tige.
On appose
vers les esprits divins.
Ah, c'est joli parce que ça, c'est une branche de feuillage et on dirige la tige de cette branche vers l'autel. Là aussi, fertilité, fécondité, vieux rituel qui se perpétue.
Sauf que le feuillage est en plastique.
Et parce que c'est plus lavable et que ça dure plus longtemps.
Et ensuite, vous devez deux fois vous incliner.
Je m'incline une fois. Je m'incline deux fois.
Puis taper
un peu.
Et je m'incline une dernière fois.
Voici des amulettes qui vous protégeront.
Ça,
ce sont des porte-bonheur. c'est un petit morceau de tissu dans lequel est représenté le sigle de notre temple. Et c'est d'ailleurs 3 pouces de riz.
Ah oui, c'est vrai.
Et à l'intérieur, il y a une prière. Et voici une petite plaquette en bois pour écrire vos vœux que vous pourrez accrocher ensuite sur un arbre là-bas ou le conserver si vous désirez. Il y a bien sûr le tigre, puisque nous sommes à l'année du tigre, avec un enfant qui porte dans sa gueule le phallus de notre temple.
Et aussi
une branche
une gerbe de riz.
Extraordinaire. Et ces phallus là-bas, 5 phallus en bois, dans un bois blond très clair, c'est quoi ça ?
Lors de la procession, il y a 5